Bonsoir, comment allez-vous? Il y a bien longtemps, j'étais jeune et prenais le métro avec un garçon de ma famille encore plus jeune, 4-5 ans. Il n'y avait pas grand monde, nous étions assis l'un à côté de l'autre et la banquette en face de nous était libre. Jusqu'à ce qu'arrive une très très grosse dame. Elle s'assied en face de nous, occupant les deux places à elle seule. Mon neveu se met à fixer cette nouvelle arrivante avec une véritable attention. Il n'avait jamais vu, à l'époque c'était beaucoup plus rare que maintenant, d'obèses. Il semblait médusé et moi je commençais à être embarrassée. J'essayais de détourner son attention, de lui montrer autre chose, rien à faire. Ses yeux restaient fixés sur la nouvelle arrivante. Et puis, je le vois qui s'agite un peu, il avait envie de me parler. Et moi, je me demandais si je n'allais pas le précéder pour lui annoncer qu'on ne faisait pas de commentaires sur le physique des gens. Mais comme évidemment elle aurait entendu, c'était peut-être pire que tout. Donc je choisis de ne rien dire. Et je tente toujours d'intéresser le petit au nom des stations dont il se contrefichait, aussi bien de Fulgence Bienvenue que de Pasteur et même de la Tour Eiffel. Jusqu'au moment où la réaction tant redoutée arriva. Il se tourne vers moi et me dit « Noël ». Ben, je réponds « Oui ». « Noël, tu as vu ?»« Oui ». « La dame ?»« Oui ». « Elle est belle, hein ?» Et le fait est qu'elle l'était. J'ai eu tellement peur qu'il ne parle de sa grosseur que je n'avais pas remarqué ni son visage magnifique, ni l'harmonie qui se dégageait de sa personne. Il avait raison, elle était belle. Et en prime, elle lui a souri, ce qui l'a rendue encore plus belle.
Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 10 ans et je voudrais savoir pourquoi dans les peintures, les femmes nues étaient toujours assez grosses. Est-ce parce que le peintre les déformait ou parce qu'elles l'étaient? Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir Alice. Pourquoi dans les peintures, les femmes étaient-elles toujours assez grosses? Demande Alice Georges Vigarello.
Mais ma chère Alice, tu as raison. Lorsque l'on regarde certains peintres, à l'évidence, des peintres comme Rubens, même des peintres comme Titien, lorsqu'ils représentent la Vénus, ont tendance à représenter les corps des femmes comme étant des corps relativement enrobés, je dirais des corps pulpeux, des corps blancs, des corps de neige qui ont une certaine épaisseur, qui ont une certaine densité, qui ont une certaine rondeur. C'est absolument incontestable. Mais une fois que l'on a dit cela, je pense qu'il faut ajouter d'autres remarques. La première remarque, c'est la suivante. Les peintres du Moyen-Âge et ceux du début de la Renaissance ne se lançaient pas dans des représentations de corps complètement arrondis. Deuxième remarque, effectivement, au milieu de la Renaissance et au XVIIe siècle, on a tendance à voir, quand on regarde bien les peintres, ce que tu as fait d'ailleurs, on a tendance à voir des corps qui sont relativement arrondis. Alors là, il y a plusieurs interprétations possibles, il y en a au moins deux. La première, c'est que vraisemblablement, le sucre qui vient d'outre-Atlantique, les cannes à sucre, et qui se répand progressivement en Europe, a eu tendance à avoir des conséquences sur le physique même des corps. Donc ça, c'est la première interprétation. Je pense qu'elle n'est pas complètement fausse. La deuxième interprétation, elle est sous-tendue dans ta question. C'est la suivante. C'est qu'il y a des goûts des peintres qui favorisent, surtout au XVIIe siècle et encore aussi au XVIIIe, qui favorisent le fait que les corps sont représentés de façon un peu plus ronde, un peu plus pulpeuse, un peu plus généreuse, avec cette idée selon laquelle, au fond, l'érotique supporte et nécessite une certaine rondeur. Mais quand on regarde les peintres en question très attentivement, et je pense à Rubens, c'est beaucoup plus compliqué. Rubens représente certaines de ses naïades comme étant rondes, je viens de le dire. Il se fascine même pour certaines représentations de gros, je pense en particulier lorsqu'il représente les damnés qui tombent parce qu'ils ont trop mangé, parce qu'ils ont trop profité de la vie, qui tombent dans l'enfer. Ce sont véritablement des gros avec des chairs qui craquellent, mais lorsque Rubens représente sa femme, elle est mince. Et lorsque Rubens représente des jeunes filles, elles ont un corset qui serre leur taille. Donc tu vois que c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Et que à la fois il y a un combat, au fond, entre la manière dont les corps sont soumis à certaines nourritures, la façon dont les corps sont regardés, mais aussi la manière dont les corps sont, par certains, appréciés. Et tous les corps ronds ne le sont pas nécessairement. Je finis en disant que quoi ? Ben, en disant que tous les peintres ne représentent pas les corps de la même manière. Par exemple, un peintre comme Goya, il représente des êtres qui sont fins.
Ah oui, maigres même, secs.
Minces même, maigres. Ouais. Donc, tu vois, la question est plus complexe. Et en même temps, tu as en partie raison.
Merci à Georges Vigarello. Vous connaissez le principe des petit bateau. Nous répondons aux questions des enfants. Alors ce soir, nous apprendrons avec Aurélie Jean ce qu'est un bug informatique. Avec Lugues Bramy, nous apprendrons comment est fabriqué le papier toilette, avec quels arbres. Et avec le docteur Ghislaine Dehaene, pourquoi certains arrivent à apprendre à lire plus facilement ou plus difficilement que d'autres. Il y a même des langues qui sont plus difficiles ou plus faciles à lire que d'autres. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Louise et j'ai 9 ans. Je voudrais savoir si quand on trouve un crabe dans une moule, est-ce que c'est la moule qui mange le crabe ou le crabe qui mange la moule ? Merci.
Ah, Louise. C'est Anne Collet, Anne Collet qui est biologiste, qui va te répondre. Ça, c'est une question difficile.
Non, en fait, c'est une excellente question et il se trouve que c'est ni la moule qui mange le crabe, ni le crabe qui mange la moule. C'est une association entre deux animaux. C'est pas vraiment du parasite. On parle de parasite quand il y en a un qui pique quelque chose à l'autre, hein, qui l'embête en général.
Le chasse.
Qui n'est pas très sympa, on n'aime pas les parasites. Là, on appelle plus ça du commensalisme, c'est-à-dire que, en fait, c'est une association entre deux animaux, personne ne se nuit, personne ne se dérange, chacun y trouve son compte. Voilà. Et en fait, le crabe rentre dans la moule et on imagine qu'il se nourrit des détritus. Parce que la moule, vous savez, elle filtre énormément. Dans une seule journée, une petite moule comme ça, elle peut filtrer jusqu'à 300 litres d'eau.
Oh,
c'est phénoménal.
300 litres d'eau.
C'est phénoménal. Et elle filtre l'eau et dans l'eau, elle trouve des milliers et des milliers de petits organismes. Donc elle va en digérer une partie. Et puis il y a toujours des détritus. Et on pense que ces petits crabes qu'on appelle des pinotères se nourrissent de ces détritus. Ils n'embêtent pas les moules.
D'accord.
Peut-être qu'ils l'arrangent d'une certaine façon. Eux, ils sont bien au chaud. Enfin, c'est pas vrai parce que c'est la même température que l'eau.
Oui, mais ils sont
quelque part
protégés. Ils peuvent pas être mangés, voilà.
Et puis, chacun y trouve son compte.
D'accord. Il est protégé par la coquille de la moule. Il mange ses déchets.
Voilà. Il a le garde-manger qui arrive sous ses pieds, direct.
Et il a des moyens dans quoi il se tient tranquille. Il ne la dérange pas.
Et je trouve que la moule, probablement, n'est pas dérangée.
Et en aucun cas, la moule ne peut manger un crabe, même petit. C'est bien trop gros.
Non, c'est beaucoup trop gros. Elle ne peut pas le digérer.
Elle n'est pas équipée pour ça. Nous connaissons depuis longtemps au Petit Bateau et nous apprécions Anne Collet-Totti, docteur en biologie marine, fondatrice du Centre de recherche sur les mammifères marins de La Rochelle. Elle a écrit « Danse avec les baleines ». Elle vit maintenant dans le Cantal, où elle lutte contre les projets éoliens qui fleurissent un peu partout dans le département. Elle est secrétaire de l'association Vent des Planèzes.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié.
Christophe, cette tête. Aline, quelle année 1965, me dit Stéphane Combe, t'étais pas née, chérie, en 1965. Eh oui, les filles de cette époque, dès qu'elles disaient qu'elles s'appelaient Aline, on leur répondait et j'ai crié.
Les petits bateaux sur France Inter.
Écoutez bien la réponse à la question qui va suivre, parce que franchement, elle est étonnante.
Bonjour, je m'appelle Selma, j'ai 9 ans. Et je voudrais savoir pourquoi il y a des enfants ou des grandes personnes qui savent lire et d'autres qui ne savent pas. Au revoir.
Bonsoir Selma. Nous proposons, Selma, ta question au docteur Ghislaine Dehaene, qui est directrice de recherche au CNRS. Et vous êtes également, Ghislaine Dehaene, directrice de l'équipe de neuroimagerie du développement à Neurospin. Cette histoire de lecture, demande Selma, pourquoi il y a des enfants et des grandes personnes qui savent lire et d'autres pas?
Déjà, il faut apprendre à lire. Autant apprendre à parler, tout le monde apprend. Quelles que soient les circonstances, on apprend à parler. Mais apprendre à lire, il faut avoir été à l'école et avoir appris à lire.
Mais ça, je pense que c'est un petit peu évident. Peut-être que Selma veut dire pourquoi il y a des aptitudes. Pourquoi
oui.
Certains
alors,
apprennent
après, il y a effectivement
pas.
Des enfants qui, malgré qu'ils soient d'intelligence normale, qu'ils aient été à l'école comme tout le monde, n'arrivent pas à apprendre à lire. C'est ce qu'on appelle des dyslexiques. Et ça concerne quand même 5 à 10% des enfants d'une classe d'âge qui n'arrivent pas à apprendre à lire, malgré qu'on fasse tout pour qu'ils apprennent à lire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plusieurs types de dyslexie, mais la plus fréquente, et pas du tout un problème visuel comme on l'a pensé très longtemps, c'est un problème auditif, enfin auditif, au niveau du langage.
D'accord.
C'est-à-dire que pour percevoir la différence entre « be » et « ge », par exemple, il faut être très fin dans votre perception temporelle parce qu'elle est donnée en 40 millisecondes. Donc, si pour des raisons X ou Y, votre cortex auditif et vos régions qui traitent les sons de la langue sont un petit peu mal organisées, eh bien, vous allez percevoir beaucoup moins bien cette différence. Et si vous ne percevez pas la différence entre bateau et gâteau, ça gêne pas beaucoup dans le langage oral parce qu'on parle pas, le contexte est suffisant
pour comprendre tout de suite, oui.
Distinguer les deux. Mais au niveau de la lecture, ça devient problématique. En plus, les sons les plus proches de la langue, comme les pe et les be, sont aussi des lettres qui sont très proches. Le script d'imprimerie n'est pas très bon, puisque be et de sont très proches. Ce sont des lettres en miroir, donc on a tendance à les confondre.
C'est-à-dire c'est la même lettre, mais avec...
Juste, elle est orientée dans l'autre sens.
Voilà, d'accord.
Le pe et le q sont aussi, et le que sont aussi des lettres orientées en miroir. Et c'est aussi des sons très proches, donc deux difficultés. Donc, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à apprendre à lire. Alors, on peut les aider, mais simplement, ça va demander beaucoup plus de temps pour leur apprendre à lire. Ça dépend beaucoup de la langue. C'est une des choses qu'il faut savoir. Il y a des langues très transparentes, comme l'italien, où chaque son est une lettre et chaque lettre est un son. Des langues tout à fait obscures, comme l'anglais, où la suite de lettres peut donner des sons totalement différents. Et le français est une langue un petit peu intermédiaire, puisque EAU va toujours se lire O. Donc elle est assez régulière de l'écriture vers la lecture, enfin la lecture. Mais quand vous avez à transcrire un son en lettres, eh bien justement le O, vous pouvez l'écrire O, E, A, U, A, U, sans compter les subtilités comme A, U, T, A, U, L, T, etc. Donc les dyslexies sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus importantes dans les langues non transparentes comme l'anglais, alors qu'elles vont se manifester chez les Italiens par simplement une lenteur de la lecture, mais pas d'erreur. En anglais, par contre, vous allez avoir beaucoup d'erreurs également. Et cette régularité de la langue a même des effets chez les normolecteurs. Ça, c'est une chose intéressante. C'est-à-dire, si vous donnez une liste de mots totalement créés pour être lisibles en anglais ou en italien, les Italiens adultes, qui sont des lecteurs tout à fait normaux, vont lire beaucoup plus vite que les Anglais. Parce que le coût de cette transcription des lettres vers les sons, qui est compliqué en anglais, reste tout au long de la vie. Et donc, il y a un coût cognitif à lire une langue compliquée.
J'aime énormément cette réponse du docteur Ghislaine Dehaene que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr à la page des petits bateaux parce qu'elle déculpabilise tous ceux qui ont du mal à apprendre à lire ou qui apprennent un petit peu plus, un petit peu moins vite que les autres. Idem pour l'apprentissage de l'anglais. D'ailleurs, ils ne sont ni paresseux, ni imbécile. Le sujet qui va suivre a l'air léger, mais il ne l'est pas. Comme toutes les histoires de fabrication, elles sont passionnantes.
Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 7 ans et je sais que le papier toilette est avec des arbres, mais j'aimerais savoir avec quels arbres. Merci.
Luc Bramy, vous êtes justement directeur général de Global Hygiène, qui fabrique entre autres du papier toilette, tout ce qui est papier absorbant.
Exactement.
Et là-dedans, il y a les papiers toilettes.
Tout à fait.
Alors, a-t-elle raison ?
Alors, elle a raison, oui, bien entendu, oui, c'est du bois. En fait, il y a deux types de bois qu'on utilise. Alors, c'est pas aussi restrictif que ce que je vais dire, mais en fait, il y a un type de bois qu'on appelle des résineux, ce qu'on nous on qualifie en tant que professionnels de fibres longues, qui amène une résistance dans le papier qu'on utilise. Et puis, de l'autre côté, il y a en fait des arbres qui sont assez courants, qui sont de l'eucalyptus. Et l'eucalyptus est utilisé parce que c'est de la fibre courte et que ça amène de la douceur. Et donc, en fait, on fait une recette qui comprend une partie de résineux, donc une partie de bois qui viennent de Suède, par exemple, et puis une partie de bois qui vient généralement d'Amérique du Sud, les eucalyptus.
Donc vous, il faut que ça soit doux, puisque c'est du papier toilette. Ça peut pas, c'est pas le papier avec lequel on nettoie son pare-brise.
On peut.
Bon, on peut. Mais...
si on a un peu de gentillesse pour le...
Non, ça ne doit pas être génial parce que ça se dépiote.
Alors,
et là, on passe à la résistance.
C'est pas exactement ça. Alors, la précision que je dois vous faire, c'est qu'en fait, il y a une différence entre l'essuie-main et le papier toilette. Et vous avez tout à fait raison. Ça se désintègre, le papier toilette, quand vous mettez de l'eau avec.
Oui.
Donc, par exemple, vous essuyez pas la figure avec du papier toilette mouillé, parce que vous en finiriez pas.
Ni la glace de la salle de bain.
Exactement.
Ouais.
Et en fait, la seule différence, c'est qu'on introduit une résine qu'on appelle wet strength. Donc résistance humide, qui permet en fait de donner cette tenue à la feuille d'essuie-main. Donc quand par exemple vous avez un distributeur sur lequel vous tirez pour avoir la feuille, si vous le tirez bien avec deux mains, parce que attention, il faut la vraie utilisation, c'est pas de le tirer avec une seule main et en plus mouiller. Ça, vous risquez fort de rester avec juste un bout de papier. Mais en fait, il faut le tirer avec deux mains et les calculs et la technicité de la feuille qu'on produit, et ben elle tient compte de ça et elle permet en fait, même main mouillée, de tirer à deux mains une feuille et de l'avoir en entier.
Donc vous produisez du papier toilette qui doit être doux, un peu résistant quand même, parce qu'il faut pas que les doigts traversent le papier toilette.
Et puis je vous rappelle qu'on le fait défiler quand même à 2000 mètres par minute, ce qui suppose quand même une manipulation qui est pas si évidente que ça.
2000 mètres par minute ?
Sur la machine à papier, en fait, quand vous produisez à 2000 mètres par minute. C'est-à-dire que vous, je sais pas si vous souvenez de cette fameuse pub où l'enfant tournait dans tout l'appartement avec son papier toilette. Bah, c'est la même chose, mais là, le rouleau défile à 120 km par heure.
Il y a une coutume dans les îles, quand on part en bateau d'une île et qu'on se dit qu'on reviendra peut-être pas, on prend un rouleau de papier toilette, il y a celui qui est sur le bateau. Mmh. Qui prend un bout du papier toilette et celui qui reste sur le quai qui garde le rouleau et quand le bateau s'en va, ça se déroule.
C'est mignon.
Donc, il faut que ça soit résistant, il faut que ça soit absorbant, il faut que ça soit doux.
Exactement.
Et suivant l'utilisation du papier, toilette, essuie-main, ou bien pour mettre sur les lits médicaux des médecins, vous y avez plus de doux,
plus
de résistance.
Plus ou moins de la résistance ou de la douceur en fonction des cas.
Mais sinon, ce sont, comme vous le demandez Lisa, des arbres.
Des arbres de deux types, donc eucalyptus et résineux.
Mais pas d'autres...
Alors, on peut prendre de l'acacia, on peut prendre un certain nombre de choses. La difficulté, c'est si vous voulez, d'avoir un arbre qui pousse assez vite. L'eucalyptus, pour ça, est exceptionnel. Dans les régions où il pousse très très bien, du type l'Amérique du Sud, en 3 ans, vous avez un arbre complet.
Une machine qui débite quand même 2 kilomètres de papier en 1 minute, c'est impressionnant cette réponse-là aussi. Vous pouvez la réécouter sur franceinter.fr à la page des petits bateaux.
Mmh.
Extrait de la playlist de France Inter, Oumou Sangaré est une chanteuse et compositrice malienne. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des jeunes posent des questions et nous, des questions en tout genre, et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Fantine, j'ai 8 ans et j'aimerais savoir qu'est-ce le bug d'informatique.
Adorable, adorable. Ça vous fait du bien, vous qui vivez aux États-Unis, d'avoir des petites intonations de la France.
Ah mais j'adore, en plus il y a un rayon de soleil qui vient de recouvrir le studio en un instant.
Ah oui, merci pour cette bonne question bien formulée, Fantine. Aurélie Jean, je viens de le dire, vous vivez aux États-Unis, vous êtes docteur en sciences, vous êtes entrepreneur et vous êtes spécialisée dans les algorithmes. Votre livre aux éditions de l'Observatoire s'appelle « Les algorithmes font-ils la loi ?» Fantine vous demande ce que c'est qu'un bug informatique.
Alors pour te répondre, Fantine, je vais faire un petit détour, si ça vous convient, Noël, pour expliquer d'ailleurs pourquoi on parle de bug informatique. On parle de bug informatique pour les ordinateurs, et seulement pour les ordinateurs. Donc je te rappelle, Fantine, que les ordinateurs ont été créés au milieu du XXe siècle, donc bien avant que tu sois née, pour réaliser des calculs automatiquement, souvent complexes et compliqués, que nous, humains, ne pouvons pas faire. Donc revenons maintenant au bug informatique qui, encore une fois, n'existe que pour les ordinateurs, dans les ordinateurs. Alors en pratique, un bug informatique, c'est une erreur de logique dans le code informatique. Donc le code informatique, c'est ce qui est dans l'ordinateur qui va exécuter une tâche, comme faire un calcul, comme je l'ai dit précédemment. Donc il y a une erreur de logique dans le code, sans que le code possède une erreur de syntaxe. Donc la syntaxe, c'est l'orthographe, la grammaire, comme toi quand tu écris un texte, en fait il n'y a pas d'erreur. Mais le sens de ton texte n'est pas le bon. Il y a une erreur dans le sens du texte. Donc il y a une erreur dans le sens, dans la logique du code informatique, qui fait en fait qu'au final le calcul est faux, tout simplement. Le calcul va se faire, mais il donne un résultat qui n'est pas bon, approximé ou complètement faux.
Donc en fait, on ne s'est pas trompé de lettres, de
exactement.
Mots, mais on s'est mal exprimé ou l'ordinateur a mal compris.
Alors c'est souvent qu'on s'est mal exprimé, pour être tout à fait honnête, on a mal fait les choses. Ou parfois, il y a un cas qu'on n'a pas considéré dans notre calcul et du coup, lorsque ce cas arrive, notre calcul ne peut pas le prendre en considération correctement. Donc quand même, pour revenir un petit peu, le mot « bug », c'est un mot qui vient de l'anglais, ça veut dire « insecte ». et je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça vient en fait d'une histoire assez rigolote qui date de la Seconde Guerre mondiale. Donc encore, Fantine, bien avant que tu sois née. Même moi, j'étais pas née durant la Seconde Guerre mondiale. Même vous, Noël, vous n'étiez
même
pas
née. Même moi, c'est te dire.
Voilà. Donc on est dans les années 40, un 9 septembre, et l'amiral et ingénieur Grace Hopper, qui est américaine, qui est une grande femme qu'il faudra que tu regardes absolument qui elle était, a fait tourner un calcul sur la deuxième version d'un des tout premiers ordinateurs qu'on appelle le Mark II, Mark II en anglais. Pendant le calcul, un insecte, un bug en anglais, s'immisce dans les relais électriques de l'ordinateur, faisant littéralement stopper le calcul. Grace Hopper écrit dans son cahier de laboratoire qu'un insecte, un bug en anglais, a fait stopper le calcul. Depuis, on parle de bug quand notre calcul fournit une réponse fausse due à un problème de logique dans le calcul lui-même.
Donc en fait, ça a été au début un problème physique, un
exactement,
problème technique venant de l'extérieur. Et en fait, maintenant, c'est plutôt un problème interne venant d'une mauvaise formulation.
Exactement. Donc c'est rigolo de revenir toujours aux sources. Je dis toujours, lorsqu'on essaie de comprendre quelque chose aujourd'hui, il faut toujours le contextualiser dans l'histoire. Parce qu'il y a toujours une histoire où quelqu'un s'est posé la même question dans l'histoire, on peut faire des analogies. Et je trouve que voilà, revenir à l'origine du mot « bug », qui veut dire « insecte », et pourquoi un insecte ? Tout est dans les années 40 avec Grace Hopper. Donc encore une fois, Fantine, je te conseille d'aller voir qui est Grace Hopper, c'est une femme extraordinaire.
Restons aux États-Unis. Je voulais attendre un peu pour vous en parler, parce que ce livre vaut mieux qu'un effet de mode. Tout le monde a évoqué Joséphine Baker cet automne, quand elle est rentrée au Panthéon. Et puis plus rien. Cette histoire éditée par Rue du Monde, il faut la garder, s'en souvenir, la lire et la relire. C'est l'histoire vraie d'une petite fille noire américaine née au tout début du XXe siècle dans la ville de Saint-Louis, dans le Missouri. Ce lieu est important, car si c'est celui de la musique, des cabarets de jazz, du ragtime, c'est aussi celui de l'injustice, du racisme, de la violence, de la pauvreté. La maman de Joséphine rêve de danser. Mais en attendant, il faut bien manger. Elle fait le ménage, frotte les sols, lave le linge. Sa fille l'aide. Elle aide aussi à la maison pour s'occuper des petits. Mais Joséphine a la bougeotte. Pour se réchauffer, pour se donner du courage, pour lutter contre la peur, elle danse. Un jour, elle a assez de sous pour aller au théâtre. Elle découvre un monde de chanteurs, de danseurs, de comiques. Elle ne voudra plus les quitter. À cette époque, les Noirs divertissent les Noirs dans des théâtres pour Noirs. Et les Blancs divertissent les Blancs dans des théâtres pour Blancs. C'est la ségrégation. Joséphine fait partie de la communauté noire, elle en subit les traumatismes. Mais qui est noir, qui est blanc, qui n'est ni l'un ni l'autre, qui est les deux ? Joséphine Baker a dit « Pour les Blancs, je suis couleur chocolat. Pour les Noirs, je suis aussi rose que la paume de ma main. » La suite de sa vie, de sa formidable carrière, vous la lirez dans Joséphine, édité chez Rue du Monde. Podcaster, mes amis, ces petits bateaux ou réécoutez-les tout simplement, tout ou partie, par franceinter.fr, donc à la page des petits bateaux. Thomas Langlin, Marjorie Devouc, Jean-Baptiste Audibert, Stéphane Combe, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30.